Bonsoir à tous et bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour notre 78e soirée d'éthique publique, la 8e de cette année universitaire, en partenariat avec la revue Études et ce soir également avec la revue Projet, animée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, animé par les jésuites. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés avec nos invités, Jean Lebrun et Franck Damour, quelle histoire de France enseignée y a-t-il un récit national? Le mois prochain, le mardi 6 juin à 19h15, en partenariat avec nos amis de La Croix, des Semaines Sociales de France, de RCF, nous terminerons cette année universitaire par une dernière soirée sur un sujet évidemment important dans la période que nous traversons, qui est celui de l'avenir de l'Europe. Finalement, quelle Europe voulons-nous? Pourquoi et comment relancer l'Europe? Une soirée importante donc, mardi 6 juin, pour terminer ensemble cette année. Ce soir, nous restons sur les questions politiques, ou plus précisément les questions que posent les enjeux politiques de notre pays, et particulièrement à nous chrétiens. Lorsqu'en début d'année, le calendrier des différentes soirées s'établissait, nous n'avions pas repéré que le premier mardi du mois de mai, premier mardi date habituelle des soirées d'éthique publique, tomberait dans l'entre-deux-tours. Avec tout ce que ça peut signifier, en termes évidemment d'actualité, d'intérêt du sujet, votre présence le manifeste, mais peut-être aussi de passion, d'indécision et de difficulté à se parler. Les Français adorent parler de politique, ils ont peut-être un peu plus de mal à se parler. C'est pas la première fois que nous abordons ce thème dans ces soirées. Et beaucoup se souviennent qu'en novembre dernier, nous nous étions arrêtés avec Philippe Portier, universitaire, spécialiste de la laïcité et du rapport entre religion et politique, avec Charles de Courson, député, et Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice, sur le texte des évêques qui était sorti au mois d'octobre, « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », une lecture plus que jamais d'actualité. Depuis, eh bien, vous le savez, il s'est passé beaucoup de choses pour les citoyens et pour les chrétiens que nous sommes, des primaires à droite et à gauche, dont certains commencent d'ailleurs à se demander si finalement c'était le meilleur système, l'élimination de la plupart des favoris ou des personnalités de premier plan de notre vie politique, l'échec des deux grands partis, à droite et à gauche, qui structurent habituellement cette vie politique et qui ne se voient pas représentés au second tour de l'élection présidentielle. Et à l'inverse, un vrai désir de renouvellement, de changement, mais qui va jusqu'à donner une importance grandissante à des partis ou des groupes qui veulent, pourrait-on dire, renverser la table, renverser ce qu'ils considèrent comme l'ordre établi de l'argent, de la classe politique habituelle, des médias, etc., etc. Dans tous ces grands changements, qui trouvent, nous le savons aussi, des échos et des résonances à l'étranger, eh bien les chrétiens, qui sont des citoyens, sont secoués, chamboulés, parfois divisés en eux-mêmes et entre eux. Les passions ont pu prendre le dessus, entretenues de tous côtés par des réseaux sociaux et certains médias qui n'ont pas toujours aidé au travail de discernement et au souci de la vérité. Alors le titre de notre soirée, politique, leçon d'une élection, enjeu pour les chrétiens, à vrai dire, il n'est pas tout à fait juste, l'élection n'est pas encore terminée et cette échéance électorale, nous le savons, va être suivie par d'autres échéances législatives bientôt. Nous n'avons donc pas fini de tirer les leçons de cette période politique particulière dans laquelle nous nous trouvons et d'analyser en conscience comment, comme chrétiens, personnellement et collectivement, nous nous sommes situés, quels ont été nos critères, notre hiérarchisation des priorités. Qu'est-ce qui manque peut-être à cette hiérarchisation? Quel rôle ont joué les émotions, les sentiments, les affects dans nos choix? Faire ce travail en conscience, je viens de le dire, parce que c'est bien ainsi qu'il faut nous déterminer, la conscience que le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, présente, comme je cite, « le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre ». Alors aidons-nous ce soir, dans les mois qui viennent, dans nos communautés aussi, à regarder à la lumière de l'Évangile ce qu'il nous convient d'encourager, de favoriser dans la vie de la cité. Devant la réalité préoccupante d'une France fracturée, il me semble, entre autres choses, que les chrétiens doivent être de ceux qui, malgré tout, au-delà de ce qui est décevant, favorisent la parole et le dialogue. Cela demande du courage, nous le savons bien, parce qu'il n'est pas toujours facile de croire au dialogue quand ses convictions ne trouvent pas d'expression politique satisfaisante ou nous paraissent même caricaturées, peut-être, d'un côté ou de l'autre. Comment s'engager dans un vrai dialogue constructif sans renoncer à ce qui nous paraît fondamental? Comment nous aider à choisir, au-delà même du second tour, ce qui pourra davantage aider notre pays à se redresser et à retrouver son unité. Pour nous aider dans nos réflexions et vivre ensemble ce soir un échange et un débat que je souhaite, comme nous y arrivons toujours d'ailleurs, respectueux et paisible malgré les différences d'opinion, je suis heureux d'accueillir nos invités de ce soir. D'abord, Monsieur Jean-Marie Donegani, professeur des universités, vous enseignez la science politique à l'Institut d'études politiques de Paris, chercheur associé au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous êtes notamment directeur de la revue Raison politique, auteur de nombreux ouvrages. Vos recherches portent notamment sur la théorie politique, l'analyse des relations entre religion et politique, ainsi que sur la vie politique française. Merci d'être avec nous ce soir, en ce lieu du Centre Sèvres que vous connaissez bien, puisque vous nous faites également l'amitié d'y enseigner depuis plusieurs années. Et vous nous aiderez à prendre le recul le nécessaire, recul historique, mais pas seulement. Ce n'est pas la première fois, en effet, que les chrétiens ont ainsi à se situer et à se déterminer sur des opinions politiques différentes. Avec nous ce soir également le père Grégoire Cata, jésuite, docteur en théologie, membre du CERAS, et dans ce cadre, tu as collaboré au numéro de projet d'octobre dernier intitulé « Extrême droite, écouter, comprendre, agir ». Tu enseignes ici au Centre Sèvres, notamment la doctrine sociale de l'Église, et tu es le titulaire de la chaire Jean Rodin. Tu es également l'un des animateurs de la session « La politique, une bonne nouvelle » pour les étudiants et jeunes professionnels intéressés par la politique et l'engagement au service de la cité. Ce soir, tu t'appuieras notamment sur cette doctrine sociale de l'Église pour proposer quelques repères pour guider nos choix et nos actions. Enfin, Monsieur Guy Orange, vous avez été avocat pendant de nombreuses années au barreau de Paris, spécialisé en droit civil et en droit pénal. Vous êtes ainsi intervenu dans de nombreux procès relatifs aux droits de l'homme, mais vous avez aussi été très engagé dans la vie associative, d'abord à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Vous êtes d'ailleurs le président d'honneur de la Fédération internationale de l'ACAT, mais vous avez été également président du CCFD Terre solidaire de 2009 jusqu'à septembre dernier. Merci de votre présence ce soir pour nous partager comment vous voyez la présence des chrétiens dans ce contexte précis actuel et quelques-uns des rôles spécifiques que des chrétiens, même si cela ne leur est pas réservé, pourraient apporter dans la situation de notre pays. Voilà, sans plus attendre, je laisse maintenant la parole à nos invités. Politique, leçon d'une élection, enjeu pour les chrétiens. Environ donc 15 minutes chacun avant d'engager le débat entre nous. Et je donne la parole à Monsieur Donegani.
Merci François. Ce que je voudrais vous dire ce soir pour commencer, c'est que tout le monde le sait, les catholiques sont à droite. C'est un des enseignements principaux des professeurs de sciences politiques dès le premier cycle. On dit, si vous n'avez qu'une question à poser à quelqu'un dans la rue pour avoir 9 chances sur 10 de prévoir son vote la fois suivante, vous lui demandez s'il a été à la messe dimanche dernier. C'est-à-dire que c'est une variable qui résiste à toutes les vérifications. Quel que soit l'âge, quel que soit évidemment le sexe, le milieu d'études, le niveau d'études, le niveau de patrimoine, tout ce que vous voulez, la pratique religieuse, c'est le signe d'une orientation à droite. Et à cette dernière élection, à ce premier tour, nous avons effectivement un record des catholiques pratiquants, 55% pour François Fillon, alors que, comme vous le savez, il n'a fait que 20% dans l'ensemble de la population. Donc une sorte de grande vectorisation du désir chez les catholiques pratiquants en faveur d'un certain conservatisme. Un conservatisme qui a été bien étudié, notamment par des entretiens non directifs auprès de cet électorat. Une vision de la politique comme essentiellement liée à l'univers familial, hein, à cette conviction que la famille est la cellule primordiale de la société, et une vision donc de l'autorité en termes de bienveillance, de domination sans domination, hein, et d'une sorte de naturalité de la domination qu'on appelle autorité, et notamment autorité paternelle. Voilà l'arrière-fond, si vous voulez, idéologique, qui explique, en quelque sorte, que depuis 1791, les catholiques sont plutôt orientés à droite. Une vision de la politique comme gestion de l'ordre, et non pas comme volontarisme transformateur, comme on dit souvent à propos de la politique moderne et en particulier de la gauche. Alors, ceci peut quand même nous étonner à propos des derniers résultats, d'une part parce que il y a eu une évolution politique des catholiques. Je vous rappelle que les catholiques pratiquants ont voté à 7% pour François Mitterrand en 1965 et qu'ils ont voté à 34% pour la gauche en 2012. Donc quand même une évolution notable, une ouverture, si je puis dire, à d'autres univers que celui de la droite traditionnelle tout au long de la Ve République. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que la vie politique française a été essentiellement structurée depuis deux siècles par l'opposition entre le catholicisme intransigeant et la modernité libérale et ensuite orientée à gauche. C'est quoi cette opposition? C'est cette idée développée par le magistère romain dès 1791, c'est-à-dire dès le vote de la Constitution civile du clergé, selon laquelle la modernité était désastreuse, et essentiellement parce que on faisait de la liberté la valeur suprême. Alors que, comme le disait un certain nombre de pontifes qui l'ont répété jusqu'à Pie XII, seule la vérité a des droits. L'erreur n'en a aucune. Donc cela signifie qu'on ne peut pas, vous entendez bien ce que ça signifie, ça veut dire que l'État doit donner sa place à la seule vraie religion, celle qui est proche de la vérité, le catholicisme, mais ne doit pas honorer, prescrire et même autoriser les autres religions qui sont dans l'erreur. Voilà la tradition. Sauf qu'il y a eu Vatican II. Et quoi qu'on dise, sur tous les plans qui opposent tradition et modernité, sur tous les plans sur lesquels l'Église catholique avait refusé la modernité politique, il y a eu un renversement, et notamment sur la question de la liberté, puisque l'Église catholique a épousé à ce moment-là la notion de liberté qui était celle du libéralisme depuis la Révolution française. Révolution dans l'univers catholique et persistance de cette orientation des catholiques vers la droite. Plus on est intégré au catholicisme, plus on est orienté à droite. Alors, ce que je voudrais vous suggérer, c'est de mettre en question, quelques instants, après on peut tout à fait ne pas être d'accord avec la manière dont je présente les choses, mettre en question le fait que plus on est intégré au catholicisme, plus on est orienté à droite. Intégré au catholicisme, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire simplement que pour les sociologues, on mesure le degré d'intégration au catholicisme par la fréquence de participation au culte. Et c'est fondé, et c'est justifié. Parce que, contrairement à certaines critiques un peu superficielles, les gens qui vont à la messe, dans l'ensemble, croient plutôt en Dieu, en Jésus-Christ, sont plutôt plus chrétiens que ceux qui n'y vont pas. Je le rappelle parce que c'est une question qui a été soulevée un temps, mais est-ce que ces pratiquants sont si cathos que ça ? Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Et que si vous prenez un sondage d'il y a quelques années qui a été répété plusieurs fois, si vous demandez aux catholiques quel est le signe de l'appartenance au catholicisme, l'assistance à la messe vient en dernière position. 7% des catholiques répondent, c'est pour vous, qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui ? C'est la participation au culte. Et ce qui vient en premier, c'est aider ceux qui sont dans le besoin autour de soi. Vous me direz, ça c'est les sondages, il n'y a aucune opposition entre les deux, évidemment. Mais on demande de choisir pour hiérarchiser les signes et pour voir quelle image on se fait du catholique et du catholique pratiquant. Eh bien, si la pratique vient en dernière position, et si sont privilégiés plutôt des signes qui sont désinstitutionnalisés, aider ceux qui sont dans le besoin autour de soi, ça ne regarde aucune institution. Ou bien il y a aussi la prière ou l'éducation des enfants. Ça veut donc dire que nous sommes dans une situation où les gestes qui manifestent l'identité religieuse ont des significations différentes. Voilà ce que je veux vous dire d'abord. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas parler des catholiques en les considérant seulement à travers un indicateur. Et de ce point de vue, il est évident que ces catholiques pratiquants sont intégrés, bien sûr. Ce sont des catholiques intégrés, comme on dit. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire intégrer ? Je vous rappelle qu'entre 60 et 75% des catholiques pratiquants sont en désaccord avec les positions du magistère sur la contraception, sur l'avortement et sur les divorcés remariés. Donc être un catholique intégré, qu'on appelle intégré parce qu'il va plus souvent à la messe que celui qui ne l'est pas, n'est pas le signe d'une intégration, j'allais dire, intégrale au christianisme, au catholicisme. Et il y a quelque chose à examiner, que je vous propose de faire, sur l'orientation de l'intégration. Je veux dire que, habituellement, on considère qu'il y a plus ou moins d'intégration au catholicisme. Celui qui va à la messe une fois par mois est moins catholique que celui qui y va trois fois ou toutes les semaines ou tous les jours. Très bien. Le degré d'intégration. Mais je pense qu'il y a aussi une direction et pas simplement une intensité de l'attitude religieuse. Et c'est ce que je voudrais vous suggérer maintenant à l'aide de quelques exemples. Dans les enquêtes européennes, vous savez, ces enquêtes qui sont passées dans tous les pays européens, tous les 6 ou 7 ans, depuis une trentaine d'années, il y a une question qui concerne la xénophobie. Et cette question, elle est formulée à peu près de la manière suivante. Quelles sont dans les catégories suivantes les personnes de cette catégorie que vous n'aimeriez pas avoir pour voisins? Eh bien, la xénophobie, elle est plus répandue chez les personnes d'un certain âge, au-delà de 60 ans, qui sont intégrées au catholicisme, qui pratiquent. Elle est plus répandue chez ceux-là que chez ceux qui sont moins intégrés. Autrement dit, plus vous êtes catholique, selon cet indicateur, plus vous êtes xénophobe. On avait parlé de bonnes nouvelles ce soir, n'est-ce pas ? Alors j'en viens à la bonne nouvelle. Si on prend les 18-24 ans, plus on est intégré au catholicisme, moins on est xénophobe. Vous voyez que c'est pas si simple. Ça veut dire que l'intégration au catholicisme, elle est issue d'une socialisation religieuse, de la construction d'une identité religieuse, et que peut-être la construction de l'identité religieuse de certaines générations, sur le plan politique, l'association aux politiques, n'est pas la même que celle d'autres générations à propos de cette association. Dans cette même enquête, si on prend les gens qui sont caractérisés par l'assistance à la messe, on prend cet indicateur. Eh bien, on a effectivement, sur l'ensemble de la population, un taux de xénophobie et une orientation à droite qui est très forte. Si on prend un autre indicateur, la participation à des mouvements, on a l'inverse. On ne peut pas dire que les uns sont moins intégrés que les autres. Simplement, si le degré d'intégration est équivalent, l'orientation de l'intégration n'est pas la même. Et je vais vous donner un dernier exemple, j'en aurai fini avec ces enquêtes. Il y a quelques années, on a fait une enquête sociologique à la sortie d'un certain nombre de paroisses dans la ville de Grenoble, en France. Une enquête sur les orientations politiques des catholiques pratiquants. Et là, on est sûr qu'ils sont pratiquants, puisque on les chope à la sortie de la commission de leur forfait. On est sûr qu'ils sont pratiquants. Eh bien, si on les interroge sur leur orientation politique, ils sont globalement et massivement orientés à droite. Si on prend parmi ceux-là ceux qui disent lire la Bible personnellement, on a un vote de gauche. Si on prend maintenant ceux qui disent en outre participer aux animations liturgiques, on a 70% de vote à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas parler d'intégration au catholicisme comme ça. Il y a plusieurs manières d'être intégré religieusement. Il y a une direction de l'intégration comme il y a une intensité de l'intégration. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a effectivement 55% des catholiques pratiquants réguliers qui ont voté pour François Fillon. Ces gens qui assistent à la messe et qui sont de vrais catholiques, je ne suis pas en train de mettre en cause leur la fiabilité de leur intégration religieuse, mais je pense que les catholiques qui ont voté Mélenchon étaient de vrais catholiques. Mais simplement, ils n'avaient pas la même conception de l'identité religieuse. Et il y a 2-3 ans, une enquête qualitative a été faite sur les catholiques en France, qui a été menée par le groupe Confrontation, qui est l'héritier du Centre catholique des intellectuels français, et qui a donné lieu à une publication par raison du Clusiou, et qui montre quoi ? qui montre que le catholicisme, c'est un archipel. C'est un archipel de cultures différentes. Ce sont des tribus qui ne se connaissent pas. Et quand elles se connaissent, elles se détestent. Donc ceci simplement pour tempérer la manière dont nous sommes massivement imprégnés de cette conviction que les catholiques sont à droite. Oui, les catholiques sont plutôt à droite, et plus à droite que d'autres, que les musulmans par exemple, qui sont majoritairement orientés à gauche, mais pas plus à droite que les protestants, et bien moins que les évangéliques. Bon, donc c'est une manière de voir les choses globalement. Mais je pense que si nous voulons expliquer, ou mieux encore comprendre ce qui se passe dans ce lien entre l'identité religieuse et l'identité politique, entre les convictions religieuses et les orientations politiques, on ne peut pas s'en tenir à cela. Et il faut immédiatement se demander, mais qui est ce catholique? Comment se définit-il? Et évidemment, ceux qui ne se définissent pas par la pratique religieuse est plutôt régulière, eh bien ceux-là ne sont pas considérés comme des catholiques pratiquants, évidemment, dans les enquêtes. Donc, nous demander si, à partir, c'est assez mystérieux, hein, mais à partir d'un même message religieux, il y a des orientations politiques radicalement différentes. Ensuite, s'il y a des orientations politiques plus fréquentes d'un côté que de l'autre, elles tiennent à la culture du pays. Elles tiennent notamment à l'histoire de ce pays. On voit par exemple que les catholiques et les protestants, il n'y a aucune différence d'orientation politique dans les pays protestants ou dans les pays catholiques. C'est-à-dire c'est une culture générale qui oriente le lien entre religion et politique. Mais si nous voulons, à partir de là, essayer de saisir comment se fait le lien entre des convictions religieuses, entre une foi religieuse et une orientation politique, il faut procéder autrement. Et on doit s'arrêter là, car il n'y a aucune explication globale au fait que la foi des catholiques pratiquants aujourd'hui les conduise nécessairement à voter François Fillon. Et je voudrais vous, pour finir, là j'en ai terminé, vous alerter, parce que nous avons dans les journaux, nous sommes abreuvés de messages concernant le vote des catégories. Les catholiques sont comme ça. Et c'est évidemment encore plus manifeste à propos du vote François Fillon, dans la mesure où des groupes catholiques se sont identifiés à sa bannière. Donc ceci est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une naturalité, je dirais, de l'intégration au catholicisme et de l'influence de la foi religieuse sur l'ensemble de la vie et l'orientation conservatrice ou l'orientation à droite. Je vous rappelle aussi, et j'ai fini là, que les catholiques ont voté beaucoup plus largement Marine Le Pen qu'autrefois, mais c'est toujours la catégorie des catholiques pratiquants réguliers qui résiste le plus à la tentation du vote lepéniste, puisque nous n'avons que 12% des pratiquants réguliers qui ont voté Le Pen, alors que l'ensemble des catholiques ont voté à 22% pour elle. Merci.
Voilà, merci Jean-Marie. Vous nous avez rappelé, c'est vraiment le point de départ de votre propos, que les catholiques sont à droite, préférant finalement, pour faire bref, et je crois que ça illustre bien la politique comme gestion de l'ordre plutôt que comme un volontarisme transformateur. Et en même temps, vous nous avez dit, oui, mais les choses sont quand même beaucoup plus compliquées qu'on peut le penser. Et vous nous avez montré que l'intégration au catholicisme est issue d'une socialisation religieuse qui peut être en fait extrêmement variée, peut-être plus qu'on ne peut le penser, et qu'on ne peut pas parler de catholique en les considérant qu'à partir d'un seul indicateur, et que finalement le catholicisme pour vous est en fait un archipel de tribus, avez-vous dit, de tribus différentes, et vous avez ajouté qui se détestent. Alors l'enjeu est peut-être justement que ces tribus puissent aussi se parler, mais ça c'est moi qui ajoute cela, peut-être naïvement. Je laisse la parole pour continuer notre soirée à Grégoire Cata qui va davantage nous faire aller du côté de l'enseignement social de l'Église.
Merci François, merci à vous d'être si nombreux ce soir. Donc la question qui m'a été posée, en quoi la pensée sociale de l'Église peut-elle nous éclairer à cette période où nous sommes, c'est-à-dire entre deux tours d'élection? Alors je vais vous proposer trois groupes de remarques. D'abord sur quelques aspects généraux du rapport entre notre foi et les élections. Puis une partie un peu plus importante sur le choix particulier qui s'offre à nous cette semaine et sur lequel je pense qu'il est important de revenir. Et puis, quelques points sur l'après 7 mai, puisque tout ne s'arrête pas quand même au jour de l'élection. Donc tout d'abord, de manière un peu générale, il faut rappeler, et c'est explicite depuis le Concile Vatican II, que l'Église ne prétend pas que l'Évangile ou sa doctrine sociale s'incarnerait dans une unique option politique bien déterminée. Et ça vient conforter les constats que faisait M. Donegani. Au contraire, il y a bien en matière de choix politique une légitime pluralité. Gaudium et Spes souligne, au sujet de l'engagement des chrétiens dans les affaires de la cité, que, je cite, « fréquemment c'est leur vision chrétienne des choses qui incitera les fidèles à telle ou telle solution, selon les circonstances, mais d'autres fidèles, avec une égale sincérité, pourront en juger autrement, comme il advient souvent et à bon droit ». Souvent, c'est le constat, et à bon droit, c'est que c'est légitime. Et en conséquence, poursuit le texte, s'il arrive que beaucoup lient facilement, même contre la volonté des intéressés, les options des uns et des autres avec le message évangélique, on se souviendra en pareil cas que personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive, pour son opinion, l'autorité de l'Église. Voilà. Ce rappel, je crois, est important et indispensable, alors qu'on l'a déjà un peu évoqué, durant cette campagne, on a régulièrement entendu des groupes de catholiques afficher haut et fort que seul leur candidat était compatible avec la doctrine de l'Église. Et on a aussi entendu des mouvements, des partis, voire des candidats eux-mêmes ou des candidats aux législatives, prétendre explicitement incarner le mieux l'enseignement de l'Église. Donc encore une fois, personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive, pour son opinion, l'autorité de l'Église. C'est Gaudium et Spes 43. Mais dire que la pluralité est légitime, ce n'est pas dire que du coup, l'Église devrait se taire, ou pire, que la foi ne serait pas concernée quand il s'agit de passer dans l'isoloir. Et ce n'est pas dire non plus que tous les choix se valent du point de vue de l'Évangile et de l'enseignement social de l'Église. Cet enseignement s'efforce de donner des balises sur la résonance de l'Évangile dans les situations concrètes et historiques de la vie sociale, économique, politique. J'en rappelle juste trois qui sont bien connus. Le respect de la dignité de la personne humaine, de toute personne humaine. La recherche du bien commun. Et puis l'option préférentielle pour les pauvres, les petits, les exclus. Ce sont peut-être trois principes structurants qui en entraînent bien d'autres. Trois principes clés pour construire une société selon le souffle de l'Évangile. Trois principes qui se retrouvent aussi d'une autre manière dans la perspective offerte par la dernière grande encyclique sociale dont nous disposons, Laudato Si. Dans Laudato Si, l'écologie intégrale à laquelle, justement, cette encyclique nous invite, l'écologie intégrale, c'est bien de placer au cœur de toute la vie économique et sociale, et au cœur donc des choix politiques, à la fois le souci de prendre soin de cette maison commune que nous habitons, la Terre, de prendre soin de toutes les relations humaines, et en particulier avec les plus petits, de prendre soin de notre relation à nous-mêmes, à notre corps et tout ce que ça implique, et finalement de prendre soin aussi de notre relation à ce qui nous dépasse, à la transcendance, à Dieu. Voilà, l'écologie intégrale, finalement, si on la prend telle qu'elle s'exprime dans Laudato Si, c'est véritablement une orientation politique fondamentale qui sert aussi d'assez bons critères pour nos choix. Alors, en ayant rappelé ces principes de la doctrine sociale de l'Église, il saute aux yeux que l'offre politique n'a pas été vraiment à la hauteur lors du premier tour et probablement l'est encore moins au second. Bien sûr, en entrant dans la réalité concrète des programmes et des propositions des candidats, il est possible de repérer ce qui va dans le bon sens ou ce qui, au contraire, semble dangereux. Il est aussi possible de hiérarchiser en fonction de priorités et d'urgences. Et c'est finalement bien là une part importante du discernement qui est demandée à chacun avant une élection. Mais il faut aussi reconnaître que ce qui apparaissait encore possible avant le premier tour se complique sérieusement avant le deuxième, où on n'a plus que deux choix. Alors c'est ce qui m'amène à mon deuxième ensemble de remarques sur ce choix qui nous attend, qui est devant nous cette semaine. Discerner, selon la tradition de morale notamment, mais discerner, c'est distinguer pour agir, c'est faire des distinctions. L'appel à discerner n'est pas réservé simplement aux disciples de saint Ignace, même si on aime s'y référer régulièrement. En fait, comme chrétiens, nous ne pouvons pas nous y dérober. Voilà les implications. Renvoyer dans le même sac, dans notre situation aujourd'hui, les deux candidats, parce que pour de bonnes raisons, nous n'avons pas voté pour eux au premier tour, finalement, c'est renoncer à discerner. Et dans notre système électoral français, où l'abstention ou le vote blanc ne peuvent pas conduire à l'annulation d'un scrutin, eh bien, il faut bien reconnaître que ces deux options, du vote blanc ou de l'abstention, reviennent finalement à renoncer à choisir, à renoncer à discerner, peut-être à laisser d'autres le faire à notre place. Et donc, pas d'autre solution, je crois, que de mettre les mains dans le cambouis et de faire un choix. Et cette option, enfin cette affirmation, la tradition de l'Église, je crois, est assez claire là-dessus. Même si, évidemment, on ne va pas trouver dans des documents un décortiquage au sujet du vote blanc, quoi. Le mot « vote blanc » ne va pas apparaître. Mais pourtant, on peut rappeler Jean-Paul II, en 1988, qui soulignait, je cite, « Tous et chacun ont le droit et le devoir de participer à la politique ». C'est dans un texte sur les laïcs. 1988. Et il ajoutait un peu plus loin, les accusations d'arrivisme, d'idolâtrie du pouvoir, d'égoïsme ou de corruption, tout comme l'opinion assez répandue que la politique est nécessairement un lieu de danger moral, tout cela ne saurait justifier, disait le pape, ni le scepticisme, ni l'absentéisme des chrétiens pour la chose publique. Ni le scepticisme, ni l'absentéisme. Voilà. Et je crois que par derrière, on peut aussi retenir cette invitation qui venait du cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, qui parlait un jour de cette voie que doivent toujours prendre les chrétiens, qui est la voie, la difficile, excusez-moi, la voie difficile du courage de l'imperfection. Avoir le courage de l'imperfection. Et c'est finalement ce qu'on est obligé de faire quand on est obligé de choisir et qu'on n'est pas satisfait. Mais c'est finalement la voie des chrétiens. Il nous faut donc discerner et le faire à la lumière de l'Évangile. Et alors, là-dessus, je crois qu'il est bon de réexpliquer de nouveau pourquoi, finalement, de manière constante, depuis l'émergence du Front National dans les années 80, depuis le moment où le Front National est vraiment entré dans le paysage politique français de manière forte, non plus complètement à la marge. Depuis ce temps-là, l'Église, par la voix de ses évêques et aussi de divers groupes, associations, mouvements, l'Église, c'est pas que les évêques, a régulièrement dénoncé les positions de ce parti comme anti-évangélique. En 2002, Mgr Olivier de Béranger, l'évêque du diocèse de Saint-Denis, disait L'idéologie d'intolérance et de xénophobie du Front National, son projet nationaliste et de repli sur soi, son refus de la différence, sont aux antipodes de l'Évangile. Plus récemment, en août 2015, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques, rappelait que la position de l'Église de France sur le Front National n'avait pas varié. Et puis, depuis une semaine, vous l'avez entendu comme moi, les évêques se sont exprimés de manière diverse, mais certains ont de nouveau réaffirmé très explicitement le même type de déclaration. Voilà. Alors, ce qui est bon, ce n'est pas simplement d'entendre la condamnation un peu abrupte de ces déclarations, mais ce qui fait problème, de revenir à ce qui fait problème vis-à-vis de l'enseignement de l'Église et de l'Évangile. Ce qui fait problème, ce n'est pas seulement tel ou tel point particulier, mais c'est bien la question de la trajectoire et de ce qui structure l'ensemble du programme. Et ce qui structure l'ensemble du programme, et qui est clairement affiché, c'est la préférence nationale, rebaptisée depuis une période plus récente, priorité nationale. Elle se décline dans tous les domaines de la vie sociale et économique par la désignation permanente de l'immigration comme la cause des différents maux, on peut dire la désignation permanente de l'immigration comme bouc émissaire. Or, tous les papes, particulièrement dans la période récente, ont répété avec force que le refus de l'étranger est incompatible avec la fidélité à l'Évangile. La dignité de la personne humaine, ce principe que je rappelais tout à l'heure, ne dépend pas de la nationalité de cette personne, de sa religion, de son statut juridique, ni de la couleur de sa peau. Rappelant que les peuples du monde constituent une famille humaine, Jean-Paul II ira même jusqu'à évoquer un principe de citoyenneté mondiale, dont il détaille ainsi les implications pratiques, la condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés. Autre aspect structurellement problématique, le Front National est porteur depuis ses origines d'une contestation des institutions même de la démocratie, et donc rend possible une dérive totalitaire. Or, de nouveau, comme le rappelaient les évêques dans leur message d'octobre, les chrétiens, je cite, « les chrétiens avec les autres doivent veiller à la démocratie dans une société fragile et dure. Que pourrons-nous défendre de nos visions sociales et sociétales auxquelles nous sommes attachés si le débat et les instances démocratiques sont mis à mal ? Si la liberté pour les associations de manifester leur solidarité avec des personnes en détresse, on peut penser aux migrants, aux réfugiés, est restreinte, voire supprimée, comme elle l'est déjà parfois. S'il faut dissimuler tout signe d'appartenance religieuse dans l'espace public, au nom d'un élargissement de principe de laïcité. Le discernement, finalement, c'est aussi imaginer et distinguer de manière réaliste et concrète ce qui sera encore possible, ou au contraire ce qui sera rendu impossible, par la victoire de l'un ou l'autre candidat. Le pape François aime beaucoup à dire que la réalité est plus forte, plus importante que l'idée. Eh bien, c'est là, à mon avis, où le principe s'applique très fortement. C'est qu'au bout d'un moment, dans le discernement, on est obligé de s'intéresser à la réalité et pas simplement aux idées. Discerner, alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, le fait qu'au nom de l'Évangile, il apparaisse impossible d'apporter son approbation active autant que passive, par l'abstention, à une candidate, ne signifie pas que l'autre candidat incarne l'Évangile. Beaucoup l'ont souligné dans leurs diverses prises de parole. L'Évangile et la doctrine sociale de l'Église, il faut le dire, amènent aussi à questionner l'approche franchement libérale du candidat d'En Marche. Son approche où l'économie semble primer sur tout, où le défi écologique n'est que faiblement pris en compte, et où le traitement de questions dites sociétales, questions liées à la famille, certaines questions liées à la famille, laisse amplement à désirer. Et ce, d'autant plus que le score réalisé par la candidate du Front National, peut-être aussi par le score réalisé par M. Mélenchon, nous dit quelque chose d'une grande souffrance sociale et d'inquiétude légitime auxquelles nul ne doit rester sourd. Je rappelle comment on avait intitulé notre numéro de la revue Projet. sur l'extrême droite, écouter, comprendre, agir. On avait toute une première partie où justement on allait donner des échos quoi, de ces gens qui ont fait le choix de se tourner vers le Front National. Et, voilà. Et ça, c'est bien la première étape, le plus important. Et donc c'est aussi quelque chose à faire remonter au candidat, quel que soit le score qu'il fera. En fait, ça nous rappelle qu'un vote n'est jamais un blanc-seing. Voilà. Et du coup, ça m'amène à mon dernier faisceau de remarques, toujours à la lumière de la pensée sociale de l'Église, et qui concerne l'après-élection. Les évêques de France, de nouveau, ont souligné au mois d'octobre dernier que le politique, s'ils appelaient le politique, c'est-à-dire ce qui affirme l'existence d'un « nous » dépassant les particularités, le politique, donc, est beaucoup plus que la politique. La politique entendue comme processus concret permettant l'organisation du pouvoir. Pour le dire autrement, l'engagement politique des citoyens ne peut et ne doit pas se réduire à glisser un bulletin dans l'urne. Cet engagement est invité à se déployer dans toutes les formes de la vie de la cité. Engagement associatif, local, engagement associatif plus large, national ou international, plaidoyer, conscientisation, etc., etc. Et je pense que Guy Orange en parlera beaucoup mieux et beaucoup plus sûrement que moi. Mais c'est aussi une question qu'on a abordée dans la revue Projet, dans le dernier numéro, où on se posait la question « Monde cherche citoyen » et qu'est-ce que c'est que la citoyenneté et en quoi la citoyenneté est un concept large, mais qui est à revisiter et qui doit prendre les dimensions du monde. Alors pour conclure, je crois qu'il faut aussi rappeler que ce qui est également la mission des disciples du Christ, c'est de constamment se mettre au service du dialogue en vue du bien commun. Se mettre au service de la recherche des compromis indispensables pour pouvoir organiser la vie de la cité. Se mettre au service de la culture de la rencontre qui cherche à construire des ponts pour vivre ensemble plutôt que d'ériger des murs. Et je ne vous donne pas toutes les citations, mais vous entendez bien résonner là un certain nombre de choses que répète sans arrêt le pape François. Donc dialogue, compromis, rencontre, l'enjeu pour les catholiques est fort de se mettre au service de tout cela. Mais je crois qu'il va se trouver aussi pour nous, ou il se trouve déjà pour nous, au sein même de l'Église. Car ces derniers jours ont jeté une lumière crue sur des fractures béantes qu'il ne sera pas facile de soigner. Et d'où la nécessité, et je termine par ça avec les citations des évêques de France dans leur texte d'octobre, c'est l'invitation qu'ils nous faisaient. Chacun doit être responsable de ce que sa parole produit, et notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que là. Et puis plus loin, ils ajoutaient, l'engagement peut prendre des formes différentes à la mesure des enjeux. Mais il doit toujours être soutenu par un véritable respect pour ceux qui ne pensent pas de la même manière. S'il faut parfois donner un témoignage de fermeté, que celle-ci ne devienne jamais raideur et blocage. Je vous remercie.
Merci Grégoire. Je crois que c'était important d'entendre ce qui vient d'être dit avec le rappel des principes peut-être classiques de l'enseignement social face à la légitime pluralité en politique. Ça ne signifie pas que tous les choix se valent, et il y a eu le rappel du respect de la dignité de la vie humaine, le souci du bien commun, l'option préférentielle pour les petits et les pauvres, auquel ajouter l'écologie intégrale depuis la dernière encyclique, et puis tu as bien insisté sur l'importance du discernement qui est devant nous, devant le choix qui est devant nous. Mettre les deux candidats dans le même sac, as-tu dit, c'est renoncer à discerner. Alors, qu'est-ce qui finalement sera possible ou impossible par la victoire de l'un ou l'autre candidat? Est-ce que finalement on est plutôt du côté de quelque chose qui permet d'avancer ou il y a des risques d'éventuelle fermeture? Ça ne signifie pas, et tu l'as bien dit, que l'autre candidat soit le défenseur de l'Évangile, si je puis dire. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais ça revenait un peu à ça. Et que l'enjeu est bien de se mettre à l'écoute de cette grande souffrance sociale à laquelle nul ne peut rester sourd, et que ça ouvre un champ de possibles pour chacun, chaque chrétien, chaque citoyen, pour se mettre au service du dialogue, de la construction des ponts et de s'engager de différentes manières dans les dimensions de la vie de la cité. Cela, je crois, amène très bien la parole de Guy Orange, qui est, je crois, bien convaincu de la nécessité d'être engagé comme chrétien dans la cité. Et sans plus attendre, eh bien, je lui laisse la parole.
Merci bien de cette occasion de partage. Je vais faire quelque chose qui sans doute ne se fait pas, qui est de faire mon discernement personnel à haute voix avec vous, en vous demandant surtout de ne pas l'accueillir comme une vérité révélée, même dans cette maison, et donc de garder notre capacité de discernement. C'est donc quelques remarques très personnelles. Il m'était demandé de traiter à quels enjeux les chrétiens doivent-ils répondre. Je vais plus modestement essayer de dire comment, dans mon discernement, je retiens tel ou tel des enjeux auxquels je voudrais ajuster et mon vote de dimanche prochain, et surtout l'action qui va suivre. Parce que, surtout, n'enfermons pas. Je pense que c'est une des maladies de la démocratie française aujourd'hui, la démocratie exclusivement dans l'exercice électoral, même si celui-ci est tout à fait fondamental. Donc, remarque très personnelle, mais une remarque nourrie par l'écoute de ce que me disent ou m'ont dit un certain nombre de peuples, d'hommes et de femmes à travers, que ce soit la lutte pour l'abolition de la torture à travers le monde, la moitié des pays du monde torturent aujourd'hui, au jour où nous parlons, et puis ce combat du Comité catholique contre la faim et pour le développement. 840 millions d'hommes, de femmes, d'enfants aujourd'hui meurent de grave malnutrition. J'entends dans mon discernement, vous en entendez d'autres, des voix de ces hommes, de ces femmes. On me demande souvent, et c'était encore le cas jeudi dernier, j'étais devant des lycéens à Rennes, « Alors monsieur, ça fait 40 ans que vous êtes dans la justice, les droits de l'homme et tout le bataclan, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste ?» Si je réponds optimiste, on va me dire « 3 500 000 chômeurs en France, vous êtes optimiste, le terrorisme, vous êtes optimiste. » C'est un mot qui ne veut plus rien dire pour moi. Pessimisme, si je réponds cela, ils me disent ben, « Écoutez, monsieur, la porte est ouverte, c'est peut-être terminé, et ça serait la même chose dans cette maison, j'imagine. » Ma réponse est plus, à la fois, peut-être avec prétention, mais j'essaye, et dans mon discernement, c'est la même chose, d'être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable, l'inhumain inacceptable. À partir de là, trois points. Je vais me demander en quoi mon vote, en quoi mes engagements post-électoraux peuvent contribuer à construire, premier point, l'espérance et l'avenir pour tous. Deuxième point, l'écoute et le dialogue pour tous. Nous nous retrouvons, même si nous n'avons pas communiqué spécialement avant cette rencontre. Et justice et dignité pour tous. Le premier temps, en quoi mon vote, en quoi mes engagements participent à la construction de l'espérance et de l'avenir pour tous. Je voudrais tout d'abord réagir contre un sentiment que nous vivons, y compris ce soir, qui est un sentiment d'accablement, de démission, de résignation, de grincherie, etc. Mais les amis que j'entends dans le monde entier me disent « Vous avez de la chance de pouvoir voter ». Et si vous y alliez avec un peu, non pas de joie rigolarde, bien sûr, mais avec un peu de sérénité, avec un peu de légèreté aussi, sachant que vous avez votre responsabilité exercée, mais que vous ne portez pas sur vos épaules l'avenir du monde entier. Donc, si on pouvait respirer un petit air d'espérance et d'avenir, y compris en votant dimanche prochain, y compris en travaillant dans les mois qui vont venir, moi ça me ferait plaisir. On a le droit, au cœur de l'espérance, de faire entendre nos colères. Les psaumes sont pleins des colères, des cris, des appels. Et je fais la distinction Que fait, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Marion Muller-Collard, L'autre Dieu, fait la distinction entre les colères légitimes et les menaces, qui sont ces forces intérieures ou qui viennent de l'extérieur, qui m'enfouissent dans l'inaction, qui m'enfouissent dans l'immobilité. Oui, à la colère au cœur de l'espérance, attention aux menaces qui détruisent de l'intérieur l'espérance. L'espérance, elle écoute des plus pauvres. Je vois en vous parlant ces femmes d'Ouaki, au nord du Kivu, cette partie est de la République démocratique du Congo. C'est une association de femmes qui, je leur ai demandé, quand je les ai vues la première fois, alors c'était quoi le premier partenariat avec le CCFD de Terre solidaire, puisque vous savez que notre association a passé aujourd'hui de l'ordre de 750 partenariats avec des pays, des groupes, des associations locales dans 72 pays du monde. C'était quoi votre premier partenariat? Et elles me répondent ceci. Bien, nous, on a demandé l'équivalent de 15 000 euros sur 3 ans. Alors je pensais, pour refaire la toiture de nos cases, pour aider la scolarité de nos enfants, pour ouvrir un centre d'écoute pour nos sœurs violées. Quand les pauvres nous disent, et en cela nous redonnent de l'espérance, de la volonté dans nos décisions sociopolitiques, quand les pauvres nous disent l'attention aux plus pauvres qu'eux. J'entends aussi l'appel à la fois des pauvres, les questions qu'ils nous lancent et les appels que nous pouvons lancer nous. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec l'abbé Pierre et j'étais très marqué par le récit de sa première, de la rencontre avec celui qui deviendra le premier compagnon d'Emmaüs, Georges, qui sort du bagne. Écoutez l'abbé, moi tout le monde a foutu le camp, j'ai plus personne, je vais me suicider. Et l'abbé qui lui dit, si tu veux te suicider, tu peux te suicider parce que moi de toute façon j'ai pas de travail pour toi et j'ai pas d'argent. 3 points de suspension. Mais c'est dommage. Parce que je l'ai été demandé de venir m'aider demain. Pour essayer de voir ce qu'on pouvait essayer de ramasser dans les environs pour, etc. L'appel. Les pauvres nous appellent. Les pauvres nous disent l'espérance. Et je souhaite que nous les entendions dans cette démarche de dimanche et dans les engagements. Il n'y a pas de petits ou grands engagements. Il y a des engagements pour le bonheur des hommes et des femmes ou non. En quoi ces engagements vont être nourris de cette espérance et de ces appels des plus pauvres. Espérance, comment nous allons nous affronter en confiance à un moment très étonnant dans l'histoire politique française, moi je ne suis pas politologue ni sociologue, mais très intéressant, où le mot commencement, où le mot renouvellement est peut-être possible, et chacun y mettra tel ou tel parti. Mais moi je crois qu'il y a un lien entre ma foi chrétienne ou ce qu'elle essaye d'être, et ce commencement. Les commencements dont on ne sait jamais l'issue, mais le risque du commencement. Ça fait partie de l'espérance. Et je souhaite que dans nos décisions sociopolitiques et dans nos engagements futurs, nous intégrions cette joie, ce risque aussi du commencement. Je terminais il y a 15 jours la lecture de... Je n'ai pas tout compris, hein, mais d'un livre d'un théologien allemand protestant, Moltmann, sur de commencement en recommencement. Je vous invite à le faire, parce que de toute façon, il y aura à recommencer, y compris dans 3 semaines, etc. Donc, c'est très intéressant de voir ce lien qui est fait entre à la fois la joie de la foi que nous essayons de vivre et sa fragilité à travers tous les commencements qu'il nous faut sans cesse vivre et revivre. Vous vous souvenez peut-être de la phrase du père Scholtus dans son magnifique petit livre pour un petit christianisme d'insolence où il disait « Le chrétien est un homme, une femme du matin, 3 points de suspension, virgule, du matin de la résurrection, des commencements. » Voilà. Je m'arrête là sur ce premier temps, sauf que, si vraiment nous croyons que dans ces démarches sociopolitiques, celles de dimanche et nos engagements futurs, il y a un enjeu pour l'espérance, eh bien, il y a là une responsabilité dans l'éducation, dans la formation. Et ça va m'aider dans mon discernement. en quoi ce qui nous est proposé va contribuer à l'éducation, à la formation des plus jeunes et des autres pour le goût de vivre, pour l'appétit de vivre. Le drame, et ça c'est la menace, quand il n'y a plus cet appétit de vivre. Responsabilité que cette espérance nous donne en matière d'éducation, et responsabilité bien sûr en matière de gérer, je dirais, notre témoignage de chrétien dans une société plurielle et dans une société pluraliste. Mon deuxième temps, en quoi mon vote et mes engagements futurs participeront à la construction de l'écoute et du dialogue pour tous, dans tous les domaines. Écoute et dialogue dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine des relations de travail, dans le domaine culturel, dans le domaine religieux. Écoute et dialogue. En quoi ce qui est proposé ou ce que je tenterai de faire dans des engagements rejoint cette écoute et ce dialogue pour tous. L'écoute et le dialogue pour tous, chers amis, c'est la question de l'altérité. Et nous dépassons les clivages des uns ou des autres. Lorsque nous essayons de nous dire en quoi, dans mon discernement, je dois être attentif à ce qui m'est proposé et qui va favoriser l'écoute et le dialogue pour tous, eh bien je suis au cœur de la vie, puisque la rencontre avec l'autre, c'est là qui est le cœur de la vie. Écoute et dialogue pour tous, c'est pas une petite question futile, ça ne rentre pas, ça ne se limite pas, même si c'est nécessaire à telle ou telle action, c'est un choix. Et moi, là encore, j'entends des exemples qui m'ont été donnés, j'en prends deux, un tout près, dans la bibliothèque où travaillait mon épouse dans le 19e arrondissement. Ils font un cours de rattrapage, il se trouvait qu'il y avait une communauté de Maliens, 500 personnes qui vivaient là, sans eau, sans électricité, Paris, ville lumière, il y a 25 ans. Et il y a des petits cours de maths, et Mamadou a des petits cours de maths qui sont donnés par un monsieur qui fait trois quarts d'heure de métro aller, trois quarts d'heure de métro retour, écoute et dialogue pour tous. Blandine rencontre Mamadou, alors t'es contente de tes cours de maths, elle pense que Mamadou va lui dire « Oui madame, je suis premier, j'ai eu 19 ». Et Mamadou va lui dire « Ah madame, c'est super, c'est la première fois qu'on s'occupe de moi. Écoute et dialogue pour tous. » Écoute et dialogue pour tous, je pense à ces femmes Kachin que j'ai rencontrées à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, ces femmes Kachin donc qui sont du côté Birmanie et qui luttent pour et qui se formaient là avec un projet du CCFD Terre Solidaire, une association birmane réfugiée en Thaïlande. Et nous participons à l'après-midi de formation et à la fin on a vu ce qu'elles faisaient et à la fin une d'entre elles, une jeune femme, nous dit, alors vous qui venez en France, dites-nous, comment vous avez fait pour construire la démocratie? Écoute et dialogue pour tous. L'altérité qui est source de ma propre vie, qui est source de mon questionnement, de mon re-questionnement sur la démocratie française, sur les conditions de sa vie, etc. Écoute et dialogue pour tous, et là je souhaite, moi, dans mon discernement, un peu de lucidité sur ce qu'est le phénomène de la mondialisation. Il y a eu dans cette noble salle de nombreux colloques autour de ces questions. Pour moi, la mondialisation, c'est d'abord un fait objectif qui crée de l'interdépendance. Ça a toujours été un peu l'interdépendance, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus radicale parce que, par les médias, en 10 minutes, le monde entier est au courant d'eux, etc. Certaines techniques, nous sommes capables de polluer une partie d'un océan, une partie d'un continent, etc. Donc, interdépendance pour le meilleur aussi, par les moyens de communication, par la facilitation des contacts, tout ça. Mondialisation, un fait objectif. Et qu'on ne mette pas à la poubelle un fait objectif, c'est intellectuellement stupide. C'est comme ça. La seule question, c'est de voir comment cette mondialisation est autre chose que la mainmise sur le monde de la doctrine du super-profit. Et alors ça s'appelle la mondialisation, vous mettrez tous les istes que vous voulez, etc. Alors là, oui, on peut la questionner, cette mondialisation. Mais je souhaite que dans mon discernement, je ne remette pas en cause le fait qu'il y a un élément nouveau objectif qui est la création de ces liens d'interdépendance. Je pense que vivre un peu d'universel pour les catholiques, ça ne doit être pas spécialement désagréable. Lucidité sur ce fait universel, lucidité aussi sur cette injustice. Vous savez que les dernières enquêtes nous disent que 1% de la population du monde possède 52% du patrimoine mondial. Alors je comprends que l'on râle contre la mondialisation, mais ce n'est pas elle. C'est la manière dont nous l'organisons, nous la laissons organiser. Écoute et dialogue pour tous, je ne reviens pas sur ce que Grégoire Catta nous a dit à propos de l'accueil des étrangers, sauf un point. Dans mon discernement, j'essaye de voir comment je peux me libérer de la manipulation de mes peurs. De mes peurs, je ne parle pas des vôtres, de mes peurs, quand j'ai rencontré l'autre. Qu'on tienne compte de mes peurs, oui. Qu'on les manipule, non. Qu'on essaye d'en faire un programme complet, non pour moi. Parce que il y a écoute et dialogue pour tous. Et que aujourd'hui, le tous, il est y compris dans cette rencontre avec l'étrange étranger. Par rapport à l'accueil de l'étranger, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui remettre en cause ce qui est un droit fondamental, je dirais, sinon dans le monde entier, en tout cas dans les dimensions éthiques partagées par le monde entier, qui s'appelle l'asile, par rapport à celui qui fuit la mort, qui fuit la persécution. Écoute et dialogue pour tous. Je souhaite que la société civile, à travers nos engagements, puisse véritablement dénoncer cette manipulation. Écoute et dialogue pour tous, c'est comment, dans l'organisation institutionnelle française, nous inventons des lieux de dialogue, des lieux de débat citoyen. Certes à l'occasion des élections, mais pas uniquement. Et comment les assemblées, je ne sais pas si vous en avez vécu certaines, les assemblées citoyennes sont une réalité, comment à des échelles différentes ou à des localisations tout à fait différentes, le débat peut avoir lieu, comment des propositions participatives sont aujourd'hui inventées et proposées. Écoute et dialogue pour tous, ce n'est pas simplement le temps d'un débat de demain soir. Écoute et dialogue pour tous dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Écoute et dialogue, et là je ne rajouterai rien à ce que Grégoire Catta nous proposait, écoute et dialogue avec la nature. Et je pense que cette écologie intégrale dont le pape François nous parle et pour lequel il fournit un des textes, à mon avis, les plus approfondis que l'on ait jusqu'à maintenant fourni sur ces questions, à la fois environnementales, mais beaucoup plus que ça. La crise écologique, nous dit-il, est une crise sociale, est une crise anthropologique en même temps, écoute de la nature. Moi, j'avoue que je lis avec ravissement, j'ai plus la phrase exacte, le soleil, le vent, la pluie sont également un signe de la tendresse de Dieu. Écoute et dialogue de la nature. Troisième et dernier point, en quoi mon vote et mes engagements de demain serviront, construiront, contribueront à construire justice et dignité pour tous. Il a été question de l'option préférentielle pour les pauvres. Moi, je préfère utiliser un terme que certains amis latino-américains utilisent maintenant. C'est le choix prioritaire avec les pauvres. Je pense que dans nos discernements, nous pouvons remplacer de plus en plus le pour par le avec. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. C'est l'ancien président du CCFD qui peut le dire, c'est pas facile de dialoguer avec 740 partenaires différents qui vous racontent des choses qui ne sont pas forcément immédiatement intégrées dans vos cadres mentaux. Option préférentielle pour les pauvres, choix prioritaire avec les pauvres, ça nous amène, dans notre discernement, à réfléchir aux systèmes économiques et sociaux qui détruisent la dignité. La destruction, la violation de la dignité provient parfois de causes que nous ne pouvons pas maîtriser, mais elle a souvent comme origine des systèmes très clairs. Deux mois après que je commençais le service de la présidence au CCFD Terres Solidaires, Mgr Barreto, un évêque périvien de l'Altiplano, me disait « Guy, savez-vous que lorsque je suis arrivé dans mon diocèse, l'Altiplano péruvien, 2000 mètres d'altitude, des sommets à 4000 mètres, c'est magnifique. Les mamans sont venues me voir, elles m'ont dit « Monseigneur, vous savez qu'ici le sang des enfants est plombé ». Vous connaissez le saturnisme, plombé parce que le produit utilisé pour extraire les minerais, c'est du poison, et que le poison, ça va dans l'eau, ça va dans l'air, que les enfants, ils respirent l'air et boivent l'eau. Et je vois encore Mgr Barreto me dire les larmes dans les yeux, « Guy, comment peut-on en l'an 2000 plomber le sang de nos enfants ?» La réponse est très claire, parce que le produit pour extraire les minerais coûte moins cher qu'un autre type de produit qui exigerait des procédures un peu plus longues et sans doute un peu moins de bénéfices. Cette parole de Mgr Barreto va m'aider dans mon discernement. Justice, dignité pour tous. Justice, dignité pour tous, en regardant ce que chacun et ce que moi, demain, dans les mois qui viennent, je ferai de ce que j'appelle la dynamique des droits de l'homme. Alors ça, c'est un vieux truc. Bon, évidemment, c'est un avocat, donc il continue à croire en ce genre de sornettes, etc. Moi, je crois en la dynamique des droits de l'homme. J'espère que vous avez tous sur vos tables de nuit la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Elle nous dit deux choses. La méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. Nous sommes en 2017, ça peut jouer dans mon discernement. Méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. Elle nous dit une deuxième chose. Ensemble, nous pouvons contribuer à la construction d'un monde où l'homme sera libéré de la terreur et de la misère. Alors moi, cette dynamique des droits de l'homme, ça m'intéresse. La dignité qui a été rappelée tout à l'heure. Mais attention, il faut aller plus loin. Si je vante la dignité, et on a raison, il faut que j'accepte la deuxième étape qui est de décliner ces dignités en termes de droits et de devoirs. C'est gentil de dire à mesdames d'Ouaki, de Goma, vous êtes dignes, mesdames, oui, puis vous êtes violées, et puis vous n'avez rien à bouffer, et puis vos enfants meurent sous vos yeux. Décliner l'acte de foi en la dignité en termes de droits et de devoirs. Troisième étape, agir politiquement, socialement, au sens large du terme, pour que chacun ait accès à ses droits fondamentaux. Et quatrième étape de cette dynamique, accepter que tout ce travail que j'accomplis dans mon pays, dans mon continent, se fasse également sous le regard de l'autre, puisque nous avons signé la même charte, puisque nous avons proclamé ensemble, avec toute l'hypocrisie du monde, mais peu importe, nous avons signé ensemble le même acte de foi en la dignité de chaque personne humaine. Je crois que la société civile a un rôle très important pour rappeler aux autorités politiques qui ne sont pas la même chose que la société civile. Il y a là deux responsabilités différentes à un rôle tout à fait important en matière de justice. Pourquoi le CCFD Terres Solidaires s'est-il engagé contre les paradis fiscaux? Oh, quand je parle du paradis dans un milieu catholique, je n'ai pas trop de mal. Si j'ajoute le paradis fiscal, là, tiens, ça y est, vous faites de la politique. C'est simplement parce que nous avons évalué que lors de 200 milliards d'euros de taxes ne sont pas payées à des peuples dans lesquels nous exerçons une activité industrielle, agricole ou autre. Et que nous avons évidemment des lieux très faciles pour cacher cet argent volé qui s'appelle les paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que le CCFD s'est engagé sur la difficile question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises? Et ça a pu aboutir le 27 février dernier au vote par le Parlement français de la loi de devoir de vigilance qui demande aux sociétés françaises d'être vigilantes au regard des droits de l'homme par rapport à ce que font leurs sous-traitants et les personnes qui contribuent à la fabrication des produits. Vous vous souvenez de l'effondrement du Rana Plaza. Chers amis, j'en ai terminé. J'ai fini ma confession. C'était mon discernement. Espérance, avenir, justice, dignité, dialogue, écoute. Merci.
Merci, merci beaucoup Guy Orange de nous avoir donné quelques éléments de votre discernement à haute voix, en quoi votre vote participe à la construction de l'espérance pour tous, en quoi votre vote participe à la construction du dialogue et l'écoute, en quoi votre vote participe à la construction de la justice et de la dignité. C'est une parole personnelle et à chaque fois vous avez pu bien déployer comment vous sentiez que, par quoi cela pouvait passer. Nous pouvons les uns et les autres avoir évidemment beaucoup d'autres points de discernement et c'est peut-être le temps pour cela, maintenant. Le temps est venu d'élargir le champ de la parole entre nous, bien sûr pour... des réactions à ce qui a été dit, et je suis bien persuadé que tout le monde ne partage pas tout ce qui a été dit ce soir, mais peut-être aussi dans le respect de chacun, partager peut-être aussi eh bien, les questions qui nous habitent, qui nous préoccupent, nos propres critères de discernement, et prendre finalement le temps ce soir entre nous de... précisément de nous écouter et de dialoguer ensemble. Voilà, alors on va faire comme on le fait d'habitude, et en général ça se passe très bien. On va prendre première question-réaction, deux ou trois, avant de laisser le temps à nos intervenants pour y répondre. Voilà, on va commencer par ici. Isabelle de Golemin de La Croix.
Oui, bonjour. J'ai deux questions. Une première pour Jean-Marie Donegani comme historien. C'est le problème du rôle des évêques en politique, puisque je suis pas sûre que les évêques aient toujours joué un rôle important, en tout cas dans l'Église de France. Ils l'ont joué ces dernières années, puisqu'ils sont beaucoup intervenus sur un certain nombre de lois, et évidemment le Pax et le mariage pour tous. Là, on voit aujourd'hui que leur prise de position elle devient très très compliquée. Alors finalement, est-ce que c'est le rôle des évêques et est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un certain modèle ? Et puis une deuxième question pour le père Cata à propos des principes non négociables dont on nous parle beaucoup et savoir qu'est-ce qu'il en pensait par rapport à la doctrine sociale de l'Église.
On va continuer, il y avait une question un peu plus haut. Voilà.
Oui, parmi les enjeux, vous n'avez pas du tout mentionné celui de l'Europe qui est un produit du christianisme largement et de la démocratie chrétienne.
Merci. Prendre une autre question. Voilà, alors tout en haut, voilà.
Bonjour, vous avez parlé d'espérance pour tous. Moi j'ai un problème avec la manif pour tous et leur prise de position. Et je vois mal le lien entre ce que le père Cata nous a dit et les prises de position de cette organisation très largement identifiée au catholicisme.
Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre question ?
Eh bien, j'ai cru comprendre que cette organisation avait appelé à ne pas voter Macron, permettant éventuellement l'élection de Marine Le Pen. Donc voilà, je suis gêné par cette prise de position comme catholique. Et j'aimerais avoir votre point de vue. Et cela me pose aussi une question par rapport à l'unité au sein de la famille catholique, même si j'ai bien entendu que nous n'étions que des archipels qui se détestaient. Cela ne me réjouit pas, je ne peux pas me contenter de cet état de fait.
Merci.
Donc c'est une double question.
Merci. Voilà, il y a déjà de quoi s'occuper, je pense. Hein ? Alors, on va commencer doucement avec le rôle des évêques. Enfin, je ne sais pas si c'est très doux, mais... Jean-Marie.
L'intervention de l'Église catholique dans la vie politique française, mais plus largement dans la vie politique, est une tradition qui a été longtemps entretenue. Je vous rappelle qu'au début de l'invention du suffrage universel, nos pasteurs rappelaient... aux électeurs que leur vote, leur bulletin serait compté une deuxième fois au moment du jugement dernier. Il y avait un double comptage pour donner du poids effectivement à la décision et on leur disait de mettre les mauvais bulletins dans la poche gauche et les bons bulletins dans la poche droite pour ne pas se tromper, vous voyez l'évocation. Bon, C'est une tradition qui s'est interrompue au début des années 1970. Encore au début de la Ve République, il y avait des directives précises pour, non pas en termes généraux, mais pour tel ou tel candidat. Donc depuis, comme vous le savez, l'intervention des évêques et plus généralement de l'Église dans la vie politique s'est faite plus, à la fois plus majestueuse, je dirais, plus fondamentale et moins précise. C'est-à-dire que ce qui est rappelé en général, c'est la question du pluralisme. François l'a rappelé tout à l'heure, la légitimité du pluralisme a été affirmée par l'épiscopat relativement récemment, il y a une quarantaine d'années. Autrefois, cette légitimité n'était pas assurée. La légitimité du pluralisme sur fond d'un ensemble de principes toujours à respecter, qui sont la dignité humaine, l'attention aux plus pauvres et notamment aux étrangers. Alors, on a reproché récemment à nos évêques de ne pas avoir très clairement et précisément pris position entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je pense qu'il rappelle ces principes, et quand vous entendez le rappel des principes, et notamment le texte dont parlait François tout à l'heure, la consigne de vote, l'orientation, l'éclairage du vote est assez, assez clair. Hein. Simplement, il est justement aujourd'hui, il n'est plus possible à l'épiscopat de donner des consignes de vote. Or, si dans une élection où il n'y a que deux candidats, on dit qu'il ne faut pas voter pour l'un, c'est évidemment une consigne de vote pour l'autre. Donc je pense que on peut expliquer par cette prudence naturelle mais fondée la non-intervention récente de l'épiscopat. Cela dit, le rappel par certaines individualités, en tout cas, des fondements de la politique sur le plan chrétien, c'est-à-dire l'attention aux pauvres et l'attention aux étrangers, me semble assez clair quand même. Isabelle.
Merci. Alors, un point important, c'est celui, et on l'entend souvent dans la campagne, c'est la question des principes non négociables. Peut-être un point d'éclaircissement là-dessus, Grégoire.
Oui, la question des principes non négociables, qui avait déjà fait parler pas mal d'elle à la précédente campagne présidentielle. À l'époque, on les réduisait à trois, les principes non négociables. Puis maintenant, on en réentend beaucoup parler, mais on a au moins l'avantage, c'est qu'on rappelle qu'il y en a 8 ou 10. Je vais faire deux remarques. C'est d'abord, ça revient d'un texte qui est assez facile à trouver et disponible, d'un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2002, qui était adressé sur certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Et dans ce texte, on évoque de fait des principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. Mais il s'agit bien, c'est ça qui est important à entendre, de principes éthiques. Un peu plus loin, on redit des exigences éthiques fondamentales qui sont ou est en jeu l'essence de l'ordre moral. Et quand on parle de l'ordre éthique ou de l'ordre moral, on n'est pas directement, il y a une différence entre l'ordre moral éthique et puis la réalité de l'ordre juridique, des lois, de la réalité de la vie politique, qui est forcément un lieu où il va falloir faire des compromis, se confronter entre les principes éthique et la réalité telle qu'elle se présente, la réalité historique, quoi. Il va bien falloir négocier, quoi. Donc voilà. Je pense que ce rappel de la Congrégation pour la doctrine de la foi et qui avait été repris après par le pape Benoît XVI, c'est vraiment important. C'est que nous, comme chrétiens, on ne peut pas ignorer les principes éthiques, les principes moraux qui doivent toujours être devant nous, quoi, pour discerner. Mais en aucun cas, il en fait des points non négociable qui ferait que telle loi, immédiatement, ça s'applique. C'est le critère qui fait que la loi peut être adoptée ou pas. Parce que là, ça serait un principe juridique, quoi. Et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première remarque très importante à faire. Puis la deuxième remarque, c'est de rappeler, et on le comprend d'autant plus si on prend vraiment toute la liste qui est donnée, qui est d'ailleurs donnée sous la forme, parmi ces principes éthiques non négociables, il y a, donc c'est une liste non exhaustive, ouverte, eh bien on a le droit primordial à la vie, depuis la conception jusqu'à la fin naturelle, le respect et la protection de l'embryon humain, la protection et la promotion de la famille, la garantie de liberté d'éducation des enfants, la protection sociale des mineurs, la libération des victimes de formes modernes d'esclavage, le droit à la liberté religieuse, le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du droit commun, et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, et dans la solidarité, et puis la paix. Donc vous voyez, en fait, on couvre à peu près tout le champ des principes de la doctrine sociale de l'Église. En fait, on redit sous forme de principes éthiques non négociables ce que ça veut dire de le respect de la dignité humaine et la recherche du bien commun. Mais quand on lit l'ensemble de ces principes-là, on voit bien que ça ne peut pas du tout fonctionner comme des principes non négociables au niveau juridique, quoi. Voilà. Et puis j'ajouterais comme dernière remarque aussi, c'est important en relisant le texte, c'est que dans ce texte, et il y a évidemment des importances qui sont données, quoi, sur certains points et qui structurent. En même temps, il est indiqué nulle part une hiérarchie absolue. Vous avez une liste de principes. Tout ça étant dit, ça peut représenter des repères importants pour notre discernement, mais en retenant tout ce que j'ai dit, parce que c'est tellement déformé, quoi, dans toutes les choses qu'on reçoit et qui circulent sur Internet, pas plus tard que hier, je recevais un mail, je ne sais pas par où il m'est arrivé, qui nous explique le bon vote Kato. Écrit Kato, Kateo. Au début, j'ai cru que c'était la chaîne Kateo, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne Kateo. Et je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu parce qu'on m'a renvoyé des questions. Et qui fait exactement ce processus-là, ce qui nous donne ce passage-là de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui détaille, eux, ils rajoutent une hiérarchie grâce à un argument philosophique, mais qui n'est pas présent dans le texte, en disant que l'ontologie, c'est plus important que le social. Enfin, vous pouvez réfléchir à cette question-là, si c'est vraiment vrai. Et du coup, après, on clique, une fois qu'on a eu toute l'explication, et on dit, pour qui est-ce qu'il faut que vous votiez? Et on a l'explication de la personne pour qui il faut voter, et je vous laisse deviner pour qui. Quand on a des manipulations de ce type-là, quoi, eh bien, c'est là où il faut revenir au texte originel, il faut revenir aussi aux commentaires qu'ont pu faire les uns et les autres, et ne pas se laisser enfumer.
Voilà. Je voudrais juste peut-être ajouter un point. J'avais trouvé assez frappant que dans ce texte des évêques du mois d'octobre, à aucun moment, justement, il n'y a cette notion de principe non négociable. Ça n'est jamais utilisé. En revanche, ce qui peut paraître, non pas à l'opposé, parce que c'est justement pas en opposition, mais c'est une autre manière de voir la question, c'est la notion de compromis. Et je voudrais vous lire juste ce paragraphe, parce que je trouve qu'il est assez éclairant. Le politique va être sans cesse appelé à gérer des équilibres provisoires entre différents intérêts à un instant T de l'état de la société. Le problème, bien sûr, c'est que le compromis, s'il est souvent un moindre mal qui permet malgré tout à l'immense majorité de vivre ensemble, est aussi perçu par les uns ou les autres comme une solution insatisfaisante, allant trop ou pas assez loin, à milieu de l'affirmation d'une cause pure et porteur de nouveaux affrontements. Le compromis, toujours suspecté de compromission, je crois qu'on a un peu tous ça en tête, est ainsi ce qui, aux yeux de certains, contribue à dévaluer le politique. C'est mal comprendre ce que doit être véritablement le compromis, tâche indispensable et particulièrement noble du débat politique. Le vrai compromis est plus qu'un entre-deux, simple résultat d'un rapport de force. C'est, à partir de positions différentes, entrer dans un vrai dialogue où on ne cherche pas à prendre le dessus, mais à construire ensemble quelque chose d'autre, où personne ne se renie, mais qui conduit forcément à quelque chose de différent des positions du départ. Ce ne doit pas être une confrontation de vérité, mais une recherche ensemble en vérité. Voilà. Je trouve que cet extrait de texte est particulièrement intéressant, Maintenant, c'est facile à écrire, c'est facile à lire, c'est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit vraiment d'être dans les négociations. L'enjeu de l'Europe, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Guy,
je vous avoue que je ne vous ai pas dévoilé tous les éléments de mon discernement. Bien sûr que l'enjeu de l'Europe, c'est justement par rapport à deux points, peut-être que je pourrais simplement ajouter. Notre vote et nos engagements dans une société se situent toujours à un moment donné, précis. Et ça me semble extrêmement important de pouvoir revenir aux causes historiques qui ont pu donner naissance, par exemple, à l'institution de l'Europe. Et on s'est réjoui, en tout cas en ce qui me concerne, je me réjouis de ce que des chrétiens et des catholiques, alors est-ce qu'ils étaient pratiquants, engagés, je sais pas, et contribuaient très largement à cette institution. Et en même temps, ça amène à la deuxième question, c'est que l'exercice de la responsabilité citoyenne, elle amène aussi à repenser ce que, dans une période nouvelle, dans une période différente, ce que peut-être ce projet qu'on a trouvé tout à fait fondamental et tout à fait positif au départ. Donc l'éclairage de l'histoire, et c'est pour ça que je continue à m'accrocher à la dynamique des droits de l'homme, parce que ça s'inscrit dans des histoires, et non pas dans une idéologie théorique, mais dans des histoires de vie ou de mort, et l'éclairage de l'histoire, et puis cette capacité qu'on a à la fois de dire, mais on peut remettre peut-être un certain nombre de choses, les réadapter, les re-questionner, parce que le contexte est différent, parce qu'il y a eu des événements politiques, parce qu'il y a eu des actes politiques qui sont appelés l'élargissement, etc. etc. Oui, la question européenne fait partie des enjeux de mon discernement, et là encore, avec à la fois la richesse de ce qui m'est légué par le passé. Et c'est pas n'importe quelle période, puisque c'est après la Deuxième Guerre mondiale. De même que les droits de l'homme vont être formulés au niveau universel en 48 après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut pas oublier que ces choix historiques, ils se font quand même sur 60 millions de morts. Ils se font sur la Shoah. Ils se font sur les camps de la mort. Ils se font sur la bombe atomique. C'est pas des petits trucs pour occuper un avocat, fût-il honoraire, désœuvré un mardi soir. C'est quand même des choix historiques fondamentaux. Et à partir de là, la question qui va m'être posée quand je réintégrerai ces enjeux, c'est aujourd'hui, en 2017, comment va se faire l'ajustement par rapport à ces enjeux. Petite chose que je voulais ajouter par rapport à la question des consignes de vote, c'est l'interrogation que certains ont sur le fait de dire simplement non, mais de ne pas dire non également à l'abstention au bulletin nul. Alors, je comprends qu'on ne cite pas tel ou tel nom, mais faut-il accepter, parce que vous disiez le consigne de vote, donner une consigne de vote non à cet équivalent à voter pour l'autre, non, parce qu'il y a l'abstention. Parce qu'il y a le bulletin nul. Et que dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, et que des proportions, etc., vont faire que le jeu des abstentions et des bulletins nuls peut complètement changer les proportions. Donc attention, je comprends la difficulté pour un évêque, et nous, peut-être comme laïcs, nous sommes plus libres d'une parole, et c'est là où dialogue et écoute, y compris au sein de la communauté catholique. Et je pense que sans doute, une des leçons, ça ne sera pas simplement de dire il faut refonder les partis, ça va être un travail sûrement pour certains, mais quels sont les lieux dans notre Église, dans nos réseaux, dans nos communautés chrétiennes, qui vont avoir comme mission de nous aider à nous parler, à nous reparler, à nous écouter, et non pas simplement à nous invectiver. Pour moi, c'est ce que j'appelais la sérénité lourde et sérieuse, mais la sérénité de la démarche électorale. Et c'est un facteur d'espérance. Si ça peut m'aider à être moi aussi acteur dans ma communauté catholique, être un acteur de dialogue et d'écoute, eh bien, on n'aura pas totalement perdu notre temps.
Merci. Grégoire, peut-être justement dans le prolongement de ce qui vient d'être dit sur les consignes de vote, notamment pour répondre à ce qui a été dit sur la manif pour tous.
Oui, je pense que là, les historiens peuvent, enfin, peuvent dire les choses un peu avec encore plus de précision, mais moi ce qui me paraît important de rappeler, c'est premièrement, la Manif pour tous ne se présente pas comme un mouvement de l'Église catholique, il n'y a aucun lien hiérarchique et direct avec la hiérarchie de l'Église catholique, c'est important. Je crois même que sur le site, ils doivent se présenter comme aconfessionnels. Donc prenons-les au mot aussi, quoi, si on est en désaccord avec ce qu'ils disent. Je crois que c'est important aussi de se rappeler par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce mouvement-là, peut-être un élément d'analyse. D'abord que c'est un mouvement qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup, au niveau de la direction, qui s'est beaucoup réduit, quoi. Je veux dire, il y avait des gens qui faisaient partie de la direction de la Manif pour tous pendant un moment, et puis qui ont été expulsés, qui sont partis, et puis de rester, quels sont ceux qui restent voilà, à la tête de ce mouvement, et de se rappeler du coup que si on a bien dit que personne ne peut, personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive pour son opinion l'autorité de l'Église, il y a toujours le danger dans un État et parmi des mouvements et des groupes d'instrumentaliser quoi la religion, d'instrumentaliser l'Église quoi. Alors est-ce qu'il n'y a pas une tentation de ce côté-là aussi? L'histoire a montré dans le passé, dans les années 20-30, il y avait un mouvement qui s'appelait l'Action française quoi, qui a été condamné précisément par l'Église, précisément parce que au nom du politique, ils avaient une vision de la société, une vision de la nécessité de l'ordre dans la société, qui faisait qu'il y avait besoin d'un ordre moral qui était très bien assuré par la religion chrétienne, quoi. Et donc c'était ça leur rapport à la religion, c'est-à-dire la religion soumise quoi à l'objectif politique. Et l'Église a répondu non, et c'était la condamnation de l'Action française, la condamnation de Charles Maurras. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se poser la question quoi, hein, de ce qui est dans l'héritage de ce mouvement-là, et comment à certains moments, certains groupes, certains mouvements, il faut se poser la question, comment à certains moments utilisent l'une ou l'autre question morale, l'une ou l'autre question morale qui est défendue par l'Église, pour en faire quoi l'élément clé, et du coup a besoin de l'Église pour ça, ou a besoin des valeurs chrétiennes. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une défense des intérêts de l'Église, ou est-ce que c'est une instrumentalisation quoi, des valeurs de l'Église? Et je pose la question du lien avec Maurras, parce que de fait, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'un certain nombre de personnes qui sont dans ces mouvements-là se réclament explicitement, hein, on le voit passer dans les textes, du maurrasisme, quoi. Voilà la situation dans laquelle nous sommes par rapport à certains mouvements.
Merci. Jean-Marie voulait ajouter.
Oui, je voulais simplement ajouter que, certes, la Manif pour tous, les représentants de la Manif pour tous ne représentent pas l'Église. Simplement, ils ont réussi de manière assez spectaculaire à apparaître dans la sphère publique comme les catholiques visibles. Et ça, disons-le quand même, avec la complicité d'un certain nombre de membres de l'épiscopat qui tenaient des positions exactement semblables au même moment, hein, présentant la famille bourgeoise catholique du XIXe siècle comme étant l'alpha et l'oméga de la sagesse occidentale. Alors, si on dit occidentale, c'est bien, mais en tout cas, pas universelle. Et d'autre part, pour revenir sur les consignes de vote, il y a quand même, moi je pense à Jean-Baptiste Metz qui parlait il y a quelques années à propos de la politique de deux impératifs catégoriques, de deux options fondamentales qui étaient l'option pour les pauvres, on la connaissait, mais aussi l'option pour les autres, l'option pour l'altérité, l'option pour la différence. Et de ce point de vue, si on prend pauvreté et amour de la différence, c'est un critère quand même de discernement sur les options politiques qui est assez clair. Vous vous souvenez de Deutéronome 10-19, aimez l'étranger parce que vous fûtes étranger en pays d'Égypte. Donc je pense que ces critères apparemment larges ou peut-être même vagues donnent des indications assez précises sur les fondamentaux de l'orientation chrétienne en politique. Les autres et les pauvres, ça suffit pour orienter quelque peu un vote.
Est-ce qu'on pourrait dire en d'autres termes qu'il faut faire J'aime bien cette formule qu'il faut faire toujours attention aux marqueurs chrétiens coupés de l'Évangile.
Oui, je crois que c'est exactement ça, quoi. Je retrouvais dans la citation du texte qui condamnait l'action française en 1926. On disait « Le problème, c'est que dans ce parti ou ce mouvement, l'Église n'a de place que comme soutien de l'ordre. L'Église n'a de place que comme soutien de l'ordre. »
Voilà, on va reprendre...
Le désordre moral de...
On va reprendre une dernière série de questions. Brigitte, devant, d'abord. Voilà, levez bien la main, merci, voilà. Et puis après, on passera à vous.
Merci, ce n'est pas une question, c'est simplement une petite image que je voudrais ajouter au propos de M. Orange sur l'Europe. Il se trouve que je suis en train de classer des photos de vacances, je suis tombé cet après-midi sur une photo de cimetière militaire à Verdun. Et j'avais envie de l'envoyer à un certain nombre de mails en disant peut-être qu'avant de jeter l'Europe aux orties, il ne faut peut-être pas oublier qu'elle a empêché ça depuis 70 ans.
Merci, monsieur. On va prendre derrière, madame, levez bien la main. Voilà.
Oui, la question que je me pose, c'est un peu si, d'un côté, je suis tout à fait convaincue qu'il faut écouter tous ceux qui partagent pas nos options politiques, surtout entre chrétiens, et si j'ai apprécié la démarche de la revue Projet, donc écouter, comprendre, agir par rapport à tous, y compris ceux qui votent Front National, aussi parmi des chrétiens. Je me demande comment concilier ça, ou est-ce que ça ne nous met pas dans un danger peut-être de quelquefois, je ne sais pas si on peut dire complaisance, parce que j'ai aussi autour de moi des gens qui, chrétiens ou pas, qui sont parmi ceux, justement, qui sont réellement menacés par le Front National et par ses options, et qui ont peur de ses idées, surtout en ce qui concerne, on l'a dit souvent, le rejet de l'étranger et des minorités, et qui attendent, justement, des chrétiens et de l'Église, des autorités, mais aussi des chrétiens de base, une parole claire, voire une condamnation, au moins des idées, pas forcément des personnes. Parce que pour un soutien à leur peur vis-à-vis de par rapport au racisme.
Alors, sur ce danger de complaisance, est-ce que
si je peux une minute me faire l'avocat des évêques et des responsables dans l'Église catholique sur cette question de l'accueil ou du refus de l'étranger, c'est très clair. Donc je veux dire que là-dessus, c'est important d'ailleurs de le dire autour de nous, y compris à ceux qui sont dans la crainte. Là, il y a eu un positionnement très clair, qui n'est peut-être pas ensuite facile à vivre, y compris dans la communauté et pour un évêque qui a cette responsabilité de la communion dans son diocèse. Mais là-dessus, c'est tout à fait clair. Alors, attention! Écoutez, alors je quitte ce problème très précis parce que là-dessus, je crois que les déclarations, elles sont claires, même si ensuite elles ont pu être déformées. D'une manière plus générale, la question de l'écoute, je crois que c'est fondamental. Mais attention, l'écoute, ça ne veut pas dire que j'approuve. L'éprouve, ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas argumenter pour continuer le dialogue, etc. Quitte à aller, alors soit au compromis, et moi je vous remercie d'avoir lu ce passage sur le compromis, parce que je crois que c'est essentiel pour notre formation citoyenne, soit aller jusqu'au désaccord. Et peut-être que la dernière remarque que je ferai là-dessus, c'est la difficulté que l'on a dans une communauté, je parle d'une communauté chrétienne, à vivre les désaccords. C'est pas parce que je vais être en désaccord sur tel ou tel positionnement, sur telle ou telle lecture de l'Évangile, ou sur telle ou telle traduction de mes lectures de l'Évangile, que je ne vais pas pouvoir en même temps continuer à creuser quel est cet appel que Dieu me lance à travers la personne de Jésus-Christ et le poser en communauté. Alors je sais qu'il y a des lieux où les désaccords sont tels que ce débat n'est plus possible. Et c'est là où je terminais tout à l'heure en disant Moi, je souhaiterais pouvoir, dans les mois qui viennent, participer à ces lieux de dialogue qui ne sont pas des lieux de béni, oui, on est tous d'accord, on s'embrasse sur la bouche, il n'y a plus de problème, mes sœurs, mes frères, c'est pas ça. Mais où on s'est dit clairement, on ne craint pas le désaccord, car la rencontre de l'autre, et c'est là où il y a une espèce de vide, dans le risque de l'altérité, la rencontre de l'autre, elle peut aboutir à ce désaccord, elle peut aboutir à ce que l'autre va essayer de te bouffer, de me bouffer, etc. Tout ça, c'est vrai. La seule chose, c'est que l'écoute, elle fait partie de ma chance de vivre. Et c'est le jour, on le voit bien, lorsqu'on ne parle plus à des gens, lorsqu'on ne les écoute plus, souvent ce sont des morts prématurées, voire des suicides, etc. Donc, écoute, ça ne veut pas dire accord, comment on gère nos désaccords et comment on continue à se donner des structures, moi je crois, et c'est le juriste qui parle à des choses un peu organisées, dans nos communautés, alors que ce soit peut-être pas à niveau national, mais à niveau diocésain ou paroissial ou autre, où il y a ces lieux où on peut se dire ces désaccords, sans pour autant se jeter à la figure qu'on ne va plus pouvoir communier ensemble.
Une dernière question, s'il y en a une, et puis on va en rester là. Alors, voilà, juste, allez-y.
Oui, bonsoir. J'avais une question, en fait, Monsieur Denis Gagny, vous avez fini en concluant qu'une même foi pouvait se matérialiser dans différentes options politiques. Et finalement, à la suite de la conférence, là, on arrive quand même à dire que parmi les deux candidats, il y en a un qui est clairement, donc Marine Le Pen, pas compatible avec la foi catholique. Je trouve que c'est une petite contradiction d'une part. Et d'autre part, j'ai l'impression que les choix sont guidés par les options fondamentales que vous donnez et qui, du coup, sous-entendent que, intrinsèquement, je veux dire, Marine Le Pen, en son fort intérieur, quelqu'un de mauvais parce qu'elle prend des décisions qui vont contre ses points. Alors que j'ai l'impression que, sans donner mon opinion, c'est pas la question, que dans le discours qu'elle tient, tout le monde veut le bien, tout le monde veut que les Français aillent mieux et que le monde en général, mais qu'après, dans les moyens de le faire, c'est là quand même qu'il y aura une différence et qu'elle dira, c'est vrai que telle politique économique est moins bien, peut-être qu'on a intérêt à être différemment, peut-être qu'on a intérêt à céder mieux en étant chacun chez soi. Enfin, il y a différentes modalités, mais je trouve qu'il y a une petite contradiction finalement entre le début et la fin de la conférence à ce niveau-là.
Merci, ça valait le coup d'attendre la dernière question. Surtout pour voir comment nos intervenants vont y répondre. Je ne sais pas si Jean-Marie.
Bon. Moi, je pense, mais on peut ne pas être d'accord avec moi, que les choix politiques sont déterminés par des conditions sociales, par des itinéraires sociaux et pas du tout par la religion. Et je pense que les convictions religieuses sont toujours suffisamment malléables pour accompagner n'importe quel choix politique et le fonder en transcendance et le justifier avec les Écritures, etc. Donc je pense que les catholiques de l'Action française et les catholiques d'extrême droite en général ont une conception du Christ, de la religion, de l'autorité qui est complètement possible et qui n'est pas aberrante. Et ils sont convaincus d'avoir raison. Mais leur choix politique est évidemment dicté par autre chose que par l'Évangile. Et exactement la même chose pour les catholiques de gauche ou pour les chrétiens engagés d'un autre côté. Donc, tout ceci pour dire que la foi, les Écritures, sont plutôt là pour suspendre, pour permettre de suspendre le jugement et pour essayer d'atteindre la question de la sincérité, de l'authenticité. Parce que dès qu'on est dans la vérité, voilà, il y a une vérité qui nous engage par là ou qui nous engage par ici, on se défausse, hein, et le sujet n'est pas présent. Je pense que si on se tourne du côté de l'authenticité, de la sincérité et non pas de la vérité, c'est-à-dire en ne cherchant pas, en se demandant si vraiment mon choix est dicté, comme je le dis, par des valeurs évangéliques ou par toute autre chose, eh bien peut-être qu'effectivement ce dialogue dont parlait Guy Orange tout à l'heure et cette écoute, elle est possible à l'intérieur de chacun. Parce qu'évidemment, cette dispute ne divise pas la population, mais elle divise souvent chacun d'entre nous.
Merci. Grégoire.
Oui.
Simplement, moi, je dirais, c'est un petit peu aussi ce que j'ai voulu dire dans mon propos, c'est que une élection présidentielle telle qu'est fait le système français, voilà, on n'a que deux candidats, mais ça ne veut pas dire que les gens qui votent pour tel ou tel candidat sont tous d'accord sur tout le programme du candidat, qu'ils ont tous la même option politique. C'est qu'il y a un choix pratique, concret à faire, quoi. Et donc, je crois qu'au niveau de la diversité, quoi, et de la pluralité, quoi, chez les catholiques, chez les chrétiens, les différentes options politiques, elles restent, voilà, on reste avec une pluralité, même si, évidemment, on n'a que deux candidats et qu'il va falloir se positionner sur l'un ou sur l'autre. Et je pense que ça réapparaîtra de manière très factuelle et de manière très forte. On a encore des élections législatives, quoi, qui viendront. Et encore une fois, on l'a dit aussi et répété plusieurs fois, aucun programme ne peut se réclamer totalement de toute la vision, quoi, on pourrait dire, de la doctrine sociale de l'Église ou de l'Évangile. Ça ouvre des chemins, quoi. Voilà.
Guy Orange, pour terminer.
C'est pas pour terminer, mais
pour l'instant.
Personnellement, je m'autorise, dans ma démarche personnelle, de discernement personnel, à pouvoir partager, à titre personnel avec vous, que je vois une incompatibilité entre tel type de discours politique ou telle idée politique et ma lecture, à moi, de l'Évangile. Je me donne le droit à l'incompatibilité, et j'ajoute deux choses que vous avez bien évidemment précisées, sachant que l'autre qui ne fait pas la même analyse, je souhaite, et j'ai insisté là-dessus, à ce qu'il reste dans mon univers, à ce que je reste à son écoute, parce que je pense alors là profondément que Dieu parle, que Dieu se révèle à travers non seulement l'autre qui est à peu près d'accord avec mes idées politiques, mais celui qui n'est pas d'accord. Ça me semble extrêmement important. Donc oui, je me donne le droit de dire publiquement que pour moi, il y a une incompatibilité, ce qui ne veut pas dire que l'autre est diabolisé parce que je fais la distinction entre les idées et la personne, et je n'envoie personne en enfer, mais je peux dire que cette idée, je la trouve incompatible. Mais j'ajoute, parce que je crois en l'Église, dans ma démarche de foi, que cette personne, faisant partie ou souhaitant faire partie de cette communauté d'Église, j'ai besoin de sa parole et j'ai besoin de ces lieux de partage, parfois de frottement, parfois de rugosité. Donc pas de diabolisation, mais je prends mes responsabilités en disant oui, il y a pour moi une incompatibilité aujourd'hui, en mai 2017, entre tel type de discours et ma lecture, c'est là où il ne faut pas instrumentaliser l'Évangile ou les Écritures, et ma lecture de l'Évangile. Oui, je prends cette responsabilité.
Merci, voilà, nous allons en rester là. Et nous allons continuer nos discernements les uns les autres. Ensemble aussi, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on continue à se parler, à s'écouter au-delà de nos désaccords, continuer à favoriser la parole entre nous. C'est ce que nous essayons de faire pour notre part ici au Centre Sèvres. Merci donc de votre confiance. Vous trouverez à la sortie des urnes, vous pourrez déposer votre libre participation aux frais. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine soirée d'éthique, la dernière de l'année universitaire, le mardi 6 juin. Quelle Europe voulons-nous ? Pourquoi et comment relancer l'Europe ? Bonne soirée à tous et bon vote dimanche.